Introduction. Ce document est extraordinaire. C'est un message de Dieu, un projet de révolution sociale, pédagogique, politique, économique et théologique jamais vu et rarement imaginé sur cette planète. Cette proposition a été mise en rapport avec les désirs que nous avons énoncés en tant qu'habitants de la planète. Nous avons affirmé notre décision de créer une meilleure vie pour tous, d'élever notre conscience, de rechercher un monde plus neuf. Peu importe notre choix, Dieu ne nous condamnera pas, mais si c'est notre choix, il voudra bien nous montrer le chemin. Il ne nous obligera pas, cependant, à accepter ses suggestions, ni maintenant, ni jamais. Je trouve les paroles de ce livre à la fois captivantes, dérangeantes, stimulantes et édifiantes. Elles sont captivantes parce que l'envergure et l'étendue de leur portée me sidèrent. Elles sont dérangeantes parce qu'elles nous reflètent, moi-même et le reste de la race humaine, d'une façon très inquiétante. Elles sont stimulantes parce qu'elles me lancent un défi sans précédent. Oser être meilleur, oser être plus grand que jamais, oser être la source d'un monde dans lequel la colère, la jalousie mesquine, la dysfonction sexuelle, l'injustice économique, les bêtises du système éducatif, l'inégalité sociale et le secret politique, les chicanes et les jeux de pouvoir, ne feront plus jamais partie de l'expérience humaine. Elles sont réjouissantes parce qu'elles offrent l'espoir que tout cela est possible. Pouvons-nous vraiment bâtir un tel monde? Dieu dit que oui, et qu'il suffit de vraiment choisir de le faire. Ce livre est un véritable dialogue avec Dieu. C'est le deuxième d'une série de trois, rapportant une conversation avec la déité. Elle a duré au moins 5 ans et se poursuit encore à ce jour. Vous ne croirez peut-être pas que ce document vient vraiment de Dieu, et je ne vous demande pas de le croire. Tout ce qui compte pour moi, c'est que ce document lui-même ait une certaine valeur, apporte des idées, produise un éveil, déclenche un désir renouvelé ou amène un changement fructueux dans notre vie quotidienne sur la Terre. Dieu sait que quelque chose doit changer. Nous ne pouvons continuer comme nous l'avons fait jusqu'ici. La trilogie des conversations avec Dieu a débuté avec la publication du tome 1 en mai 1995. Ce livre, où il était surtout question de préoccupations personnelles, a changé ma vie. Il a changé bien des vies. En quelques semaines, il s'est vendu à un rythme renversant et sa distribution a atteint des niveaux époustouflants. À la fin de sa première année, il s'en vendait 12 000 exemplaires par mois et ça ne faisait qu'augmenter. Bien entendu, l'auteur de ce livre n'était pas tout à fait un inconnu. Et c'est ce qui rendait ce document si intrigant et si fort. Je suis profondément reconnaissant d'être engagé dans ce processus. Un processus qui rappelle certaines grandes vérités à des milliers de personnes. Je ressens un plaisir et un bonheur personnel du fait que tant de gens aient trouvé une valeur à cette œuvre. Je veux que vous sachiez qu'au départ, j'étais mort de frayeur. J'ai craint de passer pour un fou ravagé par des illusions de grandeur. J'ai eu peur que des gens, croyant que ce document avait véritablement été écrit sous l'inspiration divine, en suivent vraiment les conseils. Et pourquoi avais-je peur de cela? C'est simple. Je savais que tout ce que j'avais écrit pouvait bien être faux. Puis, les lettres commencèrent à affluer. Des lettres de partout dans le monde. C'est alors que j'ai su. Au fond de moi, j'ai su. C'était bien. C'était exactement ce que le monde avait besoin d'entendre et exactement au bon moment. Bien entendu, il n'y a ni bien ni mal, sauf dans le contexte de l'expérience relative de notre existence. Ce que je veux dire, c'est que le livre tombait pile dans le contexte de qui est de ce que nous voulons être sur cette planète. À présent, arrive le tome 2, et je me rends compte que la peur me revient. Ce livre traite d'aspects plus vastes de nos vies individuelles, de considérations géophysiques et géopolitiques d'une envergure mondiale. Ce volume contiendra, je le soupçonne, beaucoup plus d'énoncés avec lesquels le lecteur moyen pourrait se trouver en désaccord. Alors, j'ai peur. J'ai peur que vous n'aimiez pas ce que vous allez lire ici. J'ai peur que vous réfutiez une partie de ce texte. J'ai peur de secouer un nid de guêpes, de provoquer une furie, de faire des vagues. Et une fois de plus, j'ai peur que tout cela soit faux. Je ne devrais pas avoir ces craintes. Après tout, n'avais-je pas lu mon propre premier livre? Eh bien ça y est, mon humanité encore. Voyez-vous, en rendant public ces transcriptions, je n'ai pas l'intention de secouer les gens. Je veux vous transmettre honnêtement et directement ce que Dieu m'a communiqué en répondant à mes questions. Comme j'ai promis à Dieu de rendre publiques ces conversations, je ne peux rompre ma promesse. Vous ne pouvez rompre votre promesse, vous non plus. De toute évidence, vous avez promis de permettre que toutes vos pensées, idées et croyances soient continuellement remises en question. Il est clair que vous vous êtes profondément engagé à croître indéfiniment. Seule une personne ayant pris un tel engagement choisirait de lire un livre comme celui-ci. Alors, dirait-on, nous voilà engagés ensemble, et il n'y a rien à craindre. Par conséquent, nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous faisons, nous n'avons qu'à rester fidèles à cela, il n'y aura rien à craindre. Ce que je vois, ce qui est sûr, j'imagine, pendant tout ce temps, c'est que nous sommes des messagers, vous et moi. Sinon, je ne serais pas en train d'écrire ces lignes et vous ne seriez certainement pas en train de les lire. Nous sommes des messagers et nous avons du travail à faire. Nous devons d'abord nous assurer de bien comprendre le message que nous avons reçu dans les livres « Conversations avec Dieu ». Deuxièmement, nous devons intégrer ce message à notre vie afin qu'il devienne fonctionnel. Et troisièmement, nous devons transmettre ce message aux autres en confiant la vérité à tous ceux dont nous touchons la vie par le simple et merveilleux stratagème de notre exemple. Je suis content que vous ayez décidé d'entreprendre ce voyage avec moi. Avec vous, c'est beaucoup plus facile et amusant que sans vous. Maintenant, cheminons ensemble à travers ces pages. Ce sera peut-être un peu inconfortable ici et là. Le tome 2, en effet, sera différent du tome 1. Dans le premier livre, on ressentait l'étreinte de Dieu, une grosse accolade bien chaude qui enveloppait les épaules. Le tome 2, c'est Dieu qui vous secoue les épaules d'une façon tout aussi aimante, mais avec, en plus, une douce discordance. C'est un réveil, un défi de passer au niveau suivant. Il y a toujours un niveau suivant, vous savez. Votre âme, qui est venue ici pour faire l'expérience la plus riche et non la plus douteuse, la plus grande et non la moindre, préfère que vous ne vous reposiez pas. Et même si le choix vous appartient toujours, votre âme préfère que vous ne deveniez jamais complaisant ou satisfait de vous-même et, à coup sûr, ne jamais vous voir sombrer dans l'apathie, car il y a trop de choses à changer dans votre monde, trop de choses qu'il vous reste à créer. Il y a toujours une nouvelle montagne à grimper, une nouvelle frontière à explorer, une nouvelle peur à vaincre. Il y a toujours un endroit plus grandiose, un concept plus élevé, une vision plus large. Par conséquent, ce livre sera peut-être un peu plus inconfortable que le tome 1. Restez avec cet inconfort lorsque vous le sentirez. Agrippez-vous à la barque si elle se met à balloter. Puis, vivez au sein d'un nouveau paradigme. Mieux encore, à travers la merveille et l'exemple de votre propre vie, aidez à en créer un nouveau, à votre tour. Neil Donald Walsh, Ashland, Oregon, mars 1997. Chapitre 1. Question. Merci d'être venu. Merci d'être là. Vous aviez pris rendez-vous, c'est vrai, pourtant, vous auriez pu ne pas vous présenter. Vous auriez pu décider de ne pas venir. Vous avez plutôt choisi d'être là, à l'heure convenue, à l'endroit convenu, pour que ce livre vous tombe dans les mains. Alors, merci. Mais si vous avez fait tout cela de façon inconsciente, sans même savoir ce que vous faisiez ni pourquoi, une partie de ce livre est peut-être un mystère pour vous et il convient de vous donner quelques explications. Je commencerai par vous faire remarquer que ce livre est arrivé dans votre vie au bon moment, au moment parfait. Vous ne le savez peut-être pas maintenant, mais quand vous aurez terminé l'expérience qui vous est réservée, vous le saurez absolument. Tout arrive au moment parfait, et l'arrivée de ce livre dans votre vie ne fait pas exception. Ce que vous trouverez ici, c'est ce que vous cherchez, ce que vous désirez depuis longtemps. Ce que vous trouverez ici, c'est votre plus récent, et pour certains d'entre vous, peut-être votre premier contact très réel avec Dieu. C'est vraiment un contact, et il est très réel. À présent, Dieu va entamer une conversation véritable avec vous, par mon intermédiaire. Je n'aurais pas dit cela il y a quelques années. Je le dis maintenant parce que j'ai déjà eu un tel dialogue, et je sais par conséquent qu'une telle chose est possible. Non seulement elle est possible, mais elle se produit continuellement, tout comme ceci est en train d'arriver, ici même, en ce moment. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez provoqué cela, en partie, tout comme vous avez fait en sorte que ce livre vous arrive entre les mains en ce moment. Nous sommes tous un facteur dans la création des événements de notre vie et nous sommes tous co-créateurs avec le grand créateur, en produisant chacune des circonstances qui mènent à ces événements. La première fois que j'ai parlé à Dieu en votre nom remonte à 1992-93. J'avais écrit une lettre de colère à Dieu, lui demandant pourquoi ma vie était devenue un tel monument de lutte et d'échecs. En tout, mes relations amoureuses, ma vie professionnelle, mes rapports avec mes enfants, ma santé, en tout, je ne vivais que lutte et échecs. Dans ma lettre à Dieu, j'exigeais de savoir pourquoi et ce qu'il fallait faire pour que ma vie fonctionne. À mon étonnement, cette lettre a reçu des réponses. La façon dont elle reçut ces réponses et la nature de ces réponses, tout cela est devenu un livre, publié en mai 1995 sous le titre « Conversation avec Dieu, tome 1 ». Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être même l'avez-vous lu. Dans ce cas, vous n'avez besoin d'aucun autre préambule. Si vous ne connaissez pas le premier livre, j'espère que vous le connaîtrez bientôt, car le tome 1 retrace de façon très détaillée comment tout cela a commencé et répond à bien des questions sur nos vies personnelles, des questions à propos de l'argent, de l'amour, du sexe, de Dieu, de la santé, de l'alimentation, des relations, du travail juste et de bien d'autres aspects de notre expérience quotidienne qui ne sont pas mentionnés ici. S'il n'y avait qu'un cadeau que je demanderais à Dieu de donner au monde à cet instant, ce serait le contenu du tome 1. Comme c'était à prévoir, avant même que tu ne demandes, j'aurais répondu « Dieu l'a déjà fait ». Alors, j'espère qu'après avoir lu ce livre, ou peut-être même avant que vous ne l'ayez terminé, vous choisirez de lire le premier. C'est une question de choix, tout comme le pur choix a créé chacune des expériences que vous avez jamais eues, un concept qui est expliqué dans ce premier livre. Ces premiers paragraphes du tome 2 ont été écrits en mars 1996, afin de fournir une brève introduction à la formation qui suit. Comme dans le tome 1, le processus par lequel cette information est arrivée était d'une exquise simplicité. Sur une feuille de papier vierge, j'écrivais tout simplement une question, n'importe quelle question, habituellement la première qui me venait à l'esprit. À peine avais-je terminé que la réponse se formait dans ma tête, comme si quelqu'un était en train de me la souffler à l'oreille. Je prenais une dictée. À l'exception de ces quelques lignes d'introduction, tout le contenu de ce livre a été couché sur papier entre le printemps 1993 et un peu plus d'un an plus tard. J'aimerais vous le présenter à présent, exactement comme il m'est venu et comme il m'a été donné. Nous sommes le dimanche de Pâques 1993 et, tel qu'entendu, me voilà. Me voilà, crayon à la main, bloc-notes devant moi, prêt à commencer. Je suppose que je devrais vous dire que Dieu m'a demandé d'être là. Nous avions rendez-vous. Nous allons commencer, aujourd'hui, le tome 2, le deuxième d'une trilogie dont Dieu, vous et moi faisons l'expérience ensemble. Je n'ai encore aucune idée de ce que ce livre va raconter, ni même des sujets précis que nous allons aborder, car je n'ai aucun plan en tête. C'est impossible. Ce n'est pas moi qui décide de ce que contiendra ce livre, c'est Dieu. Le dimanche de Pâques 1992, il y a un an aujourd'hui, Dieu a entamé un dialogue avec moi. Je sais que cela semble ridicule, mais c'est ce qui est arrivé. Il n'y a pas longtemps, ce dialogue a pris fin. On m'a donné l'instruction de me reposer. Mais on m'a dit également que j'avais un rendez-vous pour retourner à cette conversation ce jour même. Vous aviez vous aussi un rendez-vous. Vous voilà en train de le respecter. Je sais clairement que ce livre est en voie d'être écrit non seulement pour moi, mais pour vous à travers moi. Apparemment, vous avez cherché Dieu et la parole de Dieu pendant longtemps. Moi aussi. Aujourd'hui, nous allons trouver Dieu ensemble. C'est toujours la meilleure façon de trouver Dieu, ensemble. Nous ne trouverons jamais Dieu séparé. Je dis cela dans les deux sens. Je veux dire que, tant que nous sommes séparés, nous ne trouverons jamais Dieu. Car la première étape, si nous voulons trouver que nous ne sommes pas séparés de Dieu, est de découvrir que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Et jusqu'à ce que nous sachions et réalisions que nous ne faisons tous qu'un, nous ne pourrons savoir ni réaliser que Dieu et nous ne faisons qu'un. Dieu n'est jamais séparé de nous. Nous croyons seulement être séparés de Dieu. C'est une erreur courante. Nous croyons également être séparés les uns des autres. Ainsi, la façon la plus rapide de trouver Dieu, ai-je découvert, est de nous trouver les uns les autres, de cesser de nous cacher les uns des autres, et, bien sûr, de cesser de nous cacher à nos propres yeux. Commencez tout de suite à dire la vérité et ne cessez jamais. Commencez par vous dire la vérité à vous-même, à propos de vous-même. Puis, dites-vous la vérité à vous-même à propos des autres. Puis, dites la vérité à propos de vous-même à d'autres. Puis, dites la vérité à propos d'un autre à cet autre. Finalement, dites la vérité à chacun à propos de chaque chose. Ce sont les cinq niveaux de la sincérité. C'est la quintuple voie qui mène à la vérité. Et la vérité vous libérera. Ce livre parle de la vérité. Non pas ma vérité, mais celle de Dieu. Notre dialogue initial entre Dieu et moi s'est terminé il y a un mois seulement. Je suppose que celui-ci va se dérouler tout comme le premier. C'est-à-dire, je pose des questions et Dieu répond. Je crois que je vais m'arrêter ici et tout de suite poser une question à Dieu. Dieu, est-ce que ça va se passer ainsi? Réponse, oui. Question, c'est bien ce que je croyais. Réponse, sauf que dans ce livre, je vais moi-même soulever certains sujets, sans te le demander. Je n'ai pas tellement fait cela dans le premier livre, comme tu sais. Question, oui. Pourquoi joues-tu ce changement de direction? Réponse, parce que ce livre est écrit à ma demande. C'est moi qui t'ai demandé d'être ici, comme tu l'as souligné. Le premier livre était un projet que tu avais toi-même lancé. Dans le premier livre, tu avais un programme. Dans celui-ci, tu n'en as aucun, sinon celui d'accomplir ma volonté. Question. Oui, c'est exact. Réponse. C'est un très bel espace, Neil. J'espère que tu y viendras souvent, et les autres aussi. Question. Mais je croyais que ta volonté était ma volonté. Comment puis-je ne pas faire ta volonté si c'est aussi la mienne? Réponse. C'est une question complexe, et ce n'est pas un mauvais point de départ. Et ce n'est pas du tout un mauvais point de départ pour entamer ensemble ce dialogue. Revenons en arrière. Je n'ai jamais dit que ma volonté était ta volonté. Question. Mais oui, tu l'as dit. Dans le dernier livre, tu m'as dit très clairement « ta volonté est ma volonté ». Réponse. En effet. Mais ce n'est pas la même chose. Question. Ah non, je n'y ai vu que du feu. Réponse. Quand je dis ta volonté et ma volonté, ce n'est pas la même chose que de dire que ma volonté est ta volonté. Si tu accomplissais tout le temps ma volonté, tu n'aurais rien d'autre à faire pour atteindre l'illumination. Le processus serait terminé, tu y serais déjà. Une journée passée à n'accomplir que ma volonté t'apporterait l'illumination. Si tu avais accompli ma volonté toutes les années que tu as vécues, tu n'aurais pas tellement besoin de t'engager dans ce livre à présent. Donc, il est clair que tu n'as pas accompli ma volonté. En fait, la plupart du temps, tu ne connais même pas ma volonté. Question. Ah non? Réponse. Non, tu ne la connais pas. Question. Alors, pourquoi ne me dis-tu pas ce que c'est? Réponse. Je le fais, mais tu n'écoutes pas. Et quand tu écoutes, tu n'entends pas vraiment. Et quand tu entends, tu ne crois pas ce que tu entends. Et quand tu crois ce que tu entends, tu ne suis pas les instructions de toute façon. Alors, dire que ma volonté est la tienne, c'est visiblement inexact. D'un autre côté, ta volonté est ma volonté. Premièrement, parce que je la connais. Deuxièmement, parce que je l'accepte. Troisièmement, parce que je la glorifie. Quatrièmement, parce que je l'adore. Cinquièmement, parce que je l'assume et que je l'appelle mienne. Cela veut dire que tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux, et que je fais mienne ta volonté, par l'amour inconditionnel. Alors, pour que ma volonté soit la tienne, tu devrais faire de même. D'abord, il te faudrait la connaître. Deuxièmement, il te faudrait l'accepter. Troisièmement, il te faudrait la louanger. Quatrièmement, il te faudrait l'aimer. Finalement, il te faudrait l'appeler tienne. Dans toute l'histoire de ta race, quelques-uns d'entre vous seulement ont fait cela de façon constante. Une poignée d'autres l'ont presque toujours fait. Un grand nombre d'entre vous l'ont souvent fait. Bien des gens l'ont fait de temps à autre, et presque chacun l'a fait en de rares occasions, bien que certains ne l'aient jamais fait. Question. Et moi, j'appartiens à quelle catégorie? Réponse. Est-ce important? À quelle catégorie veux-tu appartenir à partir de maintenant? N'est-ce pas cette question qui importe? Question. Oui. Réponse. Et quelle est ta réponse? Question. J'aimerais appartenir à la première catégorie. J'aimerais connaître et accomplir ta volonté en tout temps. Réponse. C'est louable, appréciable et probablement impossible. Question. Pourquoi? Réponse. Parce qu'il te faudra croître bien davantage avant de pouvoir prétendre à cela. Mais je te dis ceci. Tu pourrais prétendre à cela. Tu pourrais tendre à la divinité à cet instant si tu le choisissais. Ta croissance n'a pas à être si longue. Question. Alors, pourquoi a-t-elle vraiment été si longue? Réponse. En effet, pourquoi donc? Qu'attends-tu? Tu ne t'imagines sûrement pas que c'est moi qui te retiens. Question. Non, je sais clairement que c'est moi qui me retiens. Réponse. Bien. La clarté est la première étape de la maîtrise. Question. J'aimerais atteindre la maîtrise. Comment faire ? Réponse : continue de lire ce livre. C'est précisément là que je t'amène.